ce n'est pas pour nourrir une réflexion de comité d'éthique à un très haut niveau, c'est plutôt parce que informellement, dans le couloir, devant la chambre de tel ou tel patient, au fur et à mesure des mois, je me suis souvent confrontée à des personnes de la famille ou de l'entourage qui prenaient la dignité comme un argument suprême pour parler de, d'euthanasie franche exceptionnellement, mais quand même, ou de au moins questionner notre pratique médicale et la suite des soins. C'est-à-dire que ce mot de dignité, effectivement, a l'air d'être au centre de la préoccupation de tout le monde et est un des fondements de la lutte pour ceux qui militent, en particulier dans la DMD. La DMD, donc l'Association pour, pour le droit à mourir dans la dignité, dont j'ai rencontré plusieurs représentants actifs à l'USP. Pas qui venaient intervenir à l'USP, mais qui se présentaient comme tels pour discuter de ce qu'on faisait, de ce qu'on ne faisait pas surtout. Alors pour aborder cette question de la dignité, je me suis servie de trois écrits qui m'ont aidé à formaliser ce que je pressentais un petit peu. Un qui se trouve dans ses cahiers pour croire aujourd'hui et qui est de Olivier de Dinchin, un qui est du Pervers Pirène et un qui est de François-Xavier Dumortier, qui doit être jésuite puisqu'il est au Centre Sèvres. Et donc j'ai adopté un cheminement un petit peu particulier pour essayer de clarifier ma pensée. Donc, avant d'approcher la dignité, il me semblait plus facile d'évoquer ce que les gens présentent, ou ce qui est présenté comme ce qui risque de faire perdre la dignité. Et d'abord, une petite notion qui m'a paru intéressante, c'est que le terme de déchéance ou de dégradation, qui est souvent exprimé pour parler de perte de la dignité, est d'abord ou est souvent un terme qui correspond à la perte d'une dignité sociale et morale. Ce n'est pas ce qu'évoquent les familles en premier, mais dans le langage, la fréquence du terme déchéance ou dégradation est souvent liée au domaine social et moral. Par exemple, le capitaine Dreyfus qui a été officiellement dégradé, ou telle personne qui a moralement eu une vie déplorable et qui vit dans une déchéance. Donc ces deux termes qui aujourd'hui sont utilisés pour parler de la perte de dignité quand il s'agit de malades en fin de vie, sont fréquents dans le langage, mais viennent plutôt d'un domaine social et moral. La deuxième chose, ce sont les points autour desquels s'articule cette fameuse perte de dignité, les trois points qui se retrouvent le plus fréquemment comme étant les risques ou les écueils qui font que la dignité se perd. Et les trois points, ce sont d'abord l'image du corps. Alors, image du corps, je vais en dire deux petits mots. C'est ce qui tourne autour de la raison et de son altération, et ce qui tourne autour de la maîtrise de soi. Et c'est vrai que dans la pratique, ces trois niveaux sont ceux qui sont présentés soit par l'entourage des malades, soit par les malades eux-mêmes, soit dans ce qui est dit, comme les pierres d'achoppement qui font que la dignité va soit s'altérer, soit carrément se perdre et qu'elle n'existera plus. Donc la thèse officielle des gens de la DMD s'exprime avec une phrase en particulier à laquelle il est difficile à première vue de ne pas souscrire et qui est la suivante. Le fondement de la vie d'un être humain est la dignité et la spiritualité. Voilà. Et ces personnes-là, ainsi que leurs adeptes, disent ensuite, il n'est donc pas possible de laisser, lorsque cette dignité est altérée, une personne continuer une vie qui n'en est plus une. Alors, l'image du corps. L'image du corps, c'est à première vue quelque chose qui nous paraît superficiel, qui peut nous paraître rapide. C'est se dire, mais quelqu'un qui a peur de perdre sa dignité parce que son corps n'est plus aussi magnifique est-ce que vraiment c'est quelque chose de fondamental? Il semblerait que souvent, l'image du corps qui se dégrade, c'est de la part de la personne malade ou de l'entourage, finalement, qu'est-ce que cette dégradation va produire chez l'autre qui me regarde? Quand je pense à une dame qui était récemment chez nous, une dame de la très bonne société, très aisée, très fière de son corps et de sa santé, qui est venue chez nous à plusieurs reprises, qui a finalement terminé effectivement dans un état de dégradation physique. On en a vu pire, mais pour elle, terrible. Le fondement, et pour elle, c'était perdre sa dignité que de se voir dégrader comme ça. Le fondement, ce n'était pas tellement son corps en lui-même, c'était, mais les autres vont me regarder dans cet état-là. Et paradoxalement, ces autres, qui prenaient eux aussi l'image du corps comme la dégradation de ce corps, comme la démonstration de la perte de sa dignité, ce n'était pas, mon Dieu, qu'elle nous paraît défigurée ou décharnée, mais qu'est-ce que ça doit produire chez elle? C'est-à-dire chacun prenez l'image du corps, non pas par rapport à soi, mais par rapport à ce que l'autre allait en penser. L'entourage, ça doit être horrible pour elle, et elle, c'est insupportable pour ceux qui viennent me voir. Dans le cas qu'on a étudié tout à l'heure, on soulignait dans notre petit groupe le fait que c'est certes le fait que sa tumeur risquait de sentir mauvais, qu'elle était sans doute laide, que tout ça... Mais c'était tout en même temps le fait qu'il n'y avait plus de visite possible, elle avait caché à son entourage et maintenant, ça se passe en même temps apparemment qu'au niveau du corps, de la peau, etc. Mais c'est par derrière, très souvent et peut-être toujours, une histoire de relation déjà. Donc son corps est dégradé, donc il n'est plus digne. Déjà se poser la question, est-ce que c'est vraiment que l'image du corps ou par derrière? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème plus fondamental de relation qui semblerait être menaçant? Pour tout ce qui est de la perte de la raison, j'ai l'impression que c'est un autre domaine qui apparaît comme extrêmement menaçant et qui semblerait être une cause de perte d'unité pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que qui est dit de la raison par rapport à l'humanité et ce qui caractérise l'humanité est quand même net. Bon, alors j'ai puisé deux, trois petites choses. La dignité humaine correspond fondamentalement à ce statut unique qui est celui de l'homme comme être de raison et de liberté. Ne pas reconnaître à la raison humaine toute sa grandeur signifie ne pas reconnaître à l'homme toute sa dignité. Que l'homme soit un être de raison et que sa dignité passe par son désir et sa manière de vivre selon la raison, voilà qui me semble ne pas pouvoir être remise en cause. Ce sont quand même des éléments qui, à première vue, sont universels et partagés par tout le monde. Alors, quoi d'étonnant que la perte de la raison semble menacer de façon fondamentale cette dignité pour beaucoup de gens. Mais là encore, quand on regarde un petit peu de près ce qui peut se passer par rapport à des personnes précises, est-ce que dans la perte de la raison, ce qui semble être menaçant pour la dignité dans ce que disent les gens, est-ce que c'est pas aussi la raison comme ultime et essentiel moyen de communication ? Quand je pense aux patients confus qui arrivent chez nous, je pense essentiellement à un monsieur qui était entouré d'une épouse et de deux filles extrêmement présentes, assez fragiles, qui ont eu un discours. Ce monsieur est resté très longtemps chez nous, il était parfaitement confus, mais de façon un tout petit peu fluctuante. Il y a eu un matin au moins où il a pris congé des siens d'une façon qui n'était plus du tout confuse. Je me souviens de discours très ambigu de cette famille, au moins au début, autour d'euthanasie, mais pas franche, enfin quelque chose de très ambigu, en tout cas d'une grande souffrance et de quelque chose autour de la dignité de cet homme. Ce n'est plus le même, ce n'est lui qui a été ceci, cela. Et finalement, c'était ce qui devient indigne, c'est que c'est qu'ils s'adressent à nous sans nous reconnaître, ils leur disaient des choses avec une espèce de désinhibition. L'habituelle communication raisonnable qu'elle connaissait avec cet homme, qui leur était très proche, était impossible, et c'était presque cela qui le rendait indigne à leurs yeux et qui le rendait insupportable. C'était pas juste le fait de perdre sa raison, c'était que dans la communication, il n'y avait plus l'habituel mode, et qu'effectivement, il leur disait des choses qui les faisaient rougir quand il leur disait devant nous. C'était ça qui le rendait indigne. Mais à nouveau, c'est une histoire de relation, plus ou cachée derrière quelque chose qui paraît... l'homme, c'est un être raisonnable, donc à partir du moment qu'il n'est plus raisonnable, il n'est plus digne. Il me semble, en tout cas, qu'il y avait un problème de relation à nouveau par derrière. L'autre raison pour laquelle la raison ou la perte de raison est une menace de la dignité, c'est la perte de la maîtrise. Et là, on arrive au troisième petit point. Il semblerait que la maîtrise, la capacité de maîtrise de soi, quand apparemment elle diminue ou elle se perd, devient une menace fondamentale pour la dignité de l'être humain. Dans ce que disent les familles ou l'entourage, la perte de la maîtrise de lui-même, de ce patient qu'on connaissait tellement ceci, tellement cela, regardez maintenant, il ne peut même plus décider de quoi que ce soit psychiquement ou physiquement. Ça, c'est un des éléments qui paraît comme la suprême indignité actuelle. Est-ce que les patients parlent d'une grande souffrance quand la maîtrise de soi diminue? Mais ils parlent d'une grande souffrance quand la maîtrise de soi diminue, mais est-ce qu'ils sont fréquents à se sentir menacés d'indignité quand la maîtrise de soi diminue? J'ai pas l'impression que ce soit si net. L'entourage mettra volontiers un terme de menace au sujet de la dignité, alors à cause de la perte de la maîtrise de soi, alors que le patient exprimera une grande souffrance, mais beaucoup plus rarement que l'entourage, en termes de perte de la dignité. C'est ce que dit en résumé l'entourage de quelqu'un. L'indignité, ce sera la perte incontrôlée de ses fonctions, et par là, la perte de la relation à lui-même et à nous. Et là, à nouveau, au moins dans cette petite réflexion-là, on voit poindre le fait que c'est la maîtrise de soi qui est perdue et qui est difficile à vivre, mais dans sa conséquence, qui est le risque de perte ou d'altération de la relation à soi et aux autres. Alors si effectivement la dignité est menacée par essentiellement ces trois domaines, et si effectivement, comme il est admis par certains, le fondement de la vie d'un être humain, c'est la dignité, et bien la conséquence logique, c'est qu'il y a une population de personnes dignes, et puis une population de personnes qui deviennent indignes, et comme la dignité est le fondement de l'existence, il est logique que cette deuxième population soit tuée. C'est-à-dire, quand on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout, et c'est de fait la logique qui préside aux membres de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Au nom de la dignité, qui est le fondement de l'existence. Quand on la perd, il n'y a plus d'existence possible. C'est donc par amour de la vie qu'il faut tuer. C'est normal. Alors, en relisant un petit peu différemment ces différents points, on s'aperçoit qu'il y a d'une part une perversion au départ dans cette conception de la dignité comme fondement de l'existence, et d'autre part, peut-être des portes ouvertes quand on considère les menaces que constitue l'altération de l'image du corps, de la raison et de la maîtrise de soi. Alors, la perversion de départ que constitue la phrase « le fondement de la vie d'un être humain, c'est la dignité et la spiritualité » est pour la raison suivante, sans du tout faire référence à quoi que ce soit de religieux, si on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lit le contraire. On lit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est non pas la dignité qui fonde l'existence, mais l'existence qui fonde la dignité. Et voilà en un mot de quoi expliquer et peut-être nous apaiser par rapport à ce fameux combat, l'euthanasie pour la dignité. Ce n'est pas la dignité qui fonde l'existence et qui la justifie, et donc qui un jour, c'est l'existence qui fonde la dignité. Il n'y a pas à relativiser cette dignité humaine, elle est. Elle ne peut pas se perdre, elle est. Pourtant, en même temps, il y a peut-être quand même quelque chose à entendre dans ce qui est mis en avant par ce raisonnement précédent. Il y a peut-être quand même une façon de porter atteinte à la dignité de l'autre, et donc, pourquoi pas, et sûrement, une façon de construire, non pas à partir de zéro, la dignité de l'autre, mais de participer à la construction ou au développement de la dignité de l'autre. Et c'est là qu'on peut envisager au moins un chemin en face du raisonnement précédent. C'est comme si la dignité de l'homme existe parce qu'il est un homme, mais elle a besoin ou elle bénéficie de son interlocuteur humain pour croître, pour exister, pour se développer. Peut-être pour être réveillé quand il n'y en a pas de conscience. Alors si on prend l'image du corps, c'est tout ce qui est pressenti largement et vécu par les infirmières, les aides-soignantes, partout où il y a des gens qui sont défigurés, ce n'est pas spécial aux USP, heureusement. C'est cette intuition qu'elles ont toutes que la façon de prendre soin physiquement d'un corps défiguré aura un pouvoir extrême sur la façon dont le malade se sent, se ressent. La façon de supporter une odeur, la façon d'y amener le médicament qui le diminuera, la façon de prendre doucement ou moins doucement, la façon de, pour un kiné de réussir avec quelqu'un trois pas alors que vraiment c'est justement la perte de la marche qui correspond à son souci maximum. Enfin, le simple regard et la façon de faire du soignant justement sur ce corps défiguré qui est à l'origine de la souffrance du patient a une puissance que les infirmières ne sous-estiment pas ou en général dont elles ont parfaitement conscience. Ça c'est au plan soignant. Et c'est clair que la façon de regarder simplement par l'entourage quelqu'un de défiguré va lui permettre ou non, à la personne défigurée en question, d'avoir honte ou d'être tranquille par rapport à sa défiguration. Ça paraît simpliste, mais si la dégradation de l'image du corps, comme je le disais tout à l'heure, est grave parce que l'autre va penser que, eh bien, c'est la contrepartie à considérer. Si je te regarde sans considérer que ta laideur te défigure, ou en considérant qu'elle te défigure, mais que ça n'altère pas ta dignité, j'ai un instrument pour réveiller ton sentiment de dignité. Par rapport à la raison, par rapport à la maîtrise de soi, est-ce que l'autre va intervenir? Bien sûr, par rapport à la raison, si j'aborde l'autre en pensant qu'une relation est encore possible, même sans le support de la raison, ben cette relation va exister. Si d'emblée je n'entre pas en relation puisque la raison est défectueuse, il n'y aura pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, comment vaincre ou combattre ce sentiment d'indignité s'il existe chez l'autre? Le travail sur la maîtrise, la perte de la maîtrise, on a quand même vite dit qu'un autre n'a plus pouvoir sur lui-même. De l'extérieur, on l'a quand même vite dit. Il reste indéniablement jusqu'au bout un minimum de pouvoir sur soi-même, ne serait-ce que, on le voit tous les jours, si on laisse à l'autre le temps, la chance d'exprimer un minimum un souhait ou un refus, eh ben on lui restitue un minimum de pouvoir. Et cette fameuse démaîtrise de soi est peut-être trop vite décrétée comme totale et entière. me vient aussi à l'esprit le dernier patient qui est décédé chez nous, pour souligner le risque de placer la dignité de l'autre à un endroit que lui ne reconnaît pas, ou ne, alors que l'autre souffrira d'un sentiment d'indignité à cause d'autre chose. Je pense à un jeune patient qui donc vient de mourir, qui avait un cancer à point de départ ORL, avec un état physique franchement, on peut dire, épouvantable, c'est-à-dire une cachexie majeure, une tumeur du cou absolument épouvantable. Je l'ai moins approché que les infirmières chaque matin, mais même à ma place, c'était terrible. Cet homme, en plus, ne parlait pas. Il ne parlait pas parce qu'il était, après toutes ses interventions au RL, il avait un petit filet de voix qui, au fur et à mesure des jours, était inaudible. Et au début, il écrivait sur une ardoise, et au fur et à mesure de l'épuisement, il n'arrivait même plus à écrire. Et au moment où il s'exprimait encore, je me souviens qu'il s'exprimait très peu, même par l'ardoise. Je me souviens avoir été très frappée parce que pour nous, ou pour moi, je vais dire pour moi, spontanément, j'aurais eu peur que l'état de son corps terrible, que ce soit là la racine d'un éventuel sentiment d'indignité ou de la perte de la dignité. Et je me souviens que les seules choses qu'il ait exprimées n'étaient pas du tout au sujet de son corps, mais était au sujet de sa vie et du fait qu'il avait tout raté et que donc il était un raté, qu'il avait donné beaucoup d'amour et que personne ne l'avait reconnu, reçu. Donc sa souffrance était dans un domaine qui n'aurait pas du tout sauté aux yeux, alors qu'on avait un domaine évident qui crevait les yeux à tout le monde, mais raté, c'était pas la bonne porte. Donc je dis juste ça pour insister sur le fait que non seulement on a du poids sur la restauration ou la réémergence de la dignité de l'autre, mais au moins à condition qu'on ne se trompe pas d'interlocuteur. C'est peut-être la plus grande souffrance et donc la plus grande menace n'est peut-être pas là où on la pense. Alors cette responsabilité m'a semblé exprimée de façon assez poussée par Jean Vanier qui parle donc du regard qu'on met sur l'autre, qu'on porte sur l'autre. Et il dit, il ne s'agit pas seulement de reconnaissance d'autrui, mais de l'hospitalité d'autrui jusque dans sa figure la plus défigurée. J'ai trouvé ça encore intéressant, parce que c'est déjà bien de poser sur l'autre un regard qu'il peut comprendre et ne pas aggraver ou ne pas juger, ne pas se laisser avoir par sa propre émotivité, etc. Un regard d'estime. Mais lui, j'ai l'impression qu'il va encore plus loin puisqu'il parle de reconnaissance, d'accord, et d'hospitalité de sa figure la plus défigurée. Ça veut dire, tu es digne non pas parce que tu n'es pas réduit à cette laideur ou à cette perte de raison, etc., mais tu es digne avec ou à travers ou là-dedans aussi. C'est à peu près clair ? Je vois très bien ce que je veux dire. Mais alors après... Très bien. Je reprends mon monsieur qui vient de mourir. Ce qui le rendait le plus digne à nos yeux, c'était que dans cet état-là, et jusque dans cet état-là, il continue, lui en particulier, à être d'une extrême présence, par exemple quand on venait. Qui le rendait digne, c'était non pas « mais vous n'êtes pas que cette horrible plaie, ce corps cachectique, vous êtes bien autre chose », c'était exactement à l'endroit de votre corps défiguré, parce que vous êtes extrêmement digne. C'est tiré par les cheveux ? C'est bien, c'est bien. Voilà. Une autre petite réflexion de Jean Vanier qui m'a éclairée au sujet de cette restitution ou de ce travail à la dignité de l'autre, c'est ce qu'il dit de la compassion que j'évoquais tout à l'heure dans le petit groupe. Jean Vanier dit de la compassion que ce n'est pas une histoire de voir l'autre comme ci ou comme ça dans une relation individuelle, duelle, mais c'est restituer l'autre, le replacer dans un cercle relationnel. Quand j'avais lu ça la première fois, ça me semblait un petit peu bizarre. Mais finalement, en réfléchissant au fait que c'est dans la relation qu'on peut travailler à la dignité de l'autre, il est clair que plus il y aura de tissu relationnel, plus ce travail va pouvoir être efficace. Voilà, donc j'en arrive là. Il y a une dignité intrinsèque, inaltérable, mais il y a une responsabilité des autres dans la construction ou le développement de cette dignité. Et l'image qui me venait, c'est personne n'oserait dire ou ne pourrait dire d'un nouveau-né qu'il n'est pas un nouveau-né vivant, et pourtant, il y a une responsabilité de l'entourage, de sa mère, pour la croissance de cet être. C'est un petit peu ce qui me... Le bébé, le nouveau-né, est un être vivant. Nouveau-né, né en bonne forme, etc. Personne ne discute autour de ça. Mais évidemment, il est une personne à part entière, mais il dépend pour sa croissance de l'autre. Et ben, c'est comme ça que je vois un petit peu maintenant, au bout du compte, cette fameuse dignité. Elle l'est, mais elle n'est pas indépendante de l'entourage. N'empêche qu'elle l'est. Et que des circonstances ne vont pas l'effacer. Voilà ce que me suggéraient mes discussions de couloir et mes lectures. Je vais d'abord dire ce que dit la DMD, hein. C'est intéressant par rapport à ce sujet des gens grabataires et végétatifs. Et ça fait suite à ce qu'on discutait aussi chez nous. La mort de l'individu est définie par l'arrêt du fonctionnement cérébral, même en cas de poursuite du fonctionnement biologique. Le fonctionnement cérébral détermine le niveau de conscience, et le niveau de conscience définit un être humain. Voilà l'exemple de glissement à partir d'une vérité. On glisse un tout petit peu et on arrive à... Eh bien, il n'y a plus de problème, on peut le tuer maintenant, c'est bon. Vous voyez, on part de quelque chose qui est une définition médicale, on glisse un peu plus loin et hop. Bon. Ce n'est pas une réponse à ta question, mais c'est une des réponses. Donc, qu'est-ce que tu me demandais?
Comment chez les gens grabataires qui ont une image du corps, je ne sais pas quelle image ils ont de leur propre corps, c'est sûr que celui qui le visite ou celui qui les soigne, ce n'est pas des corps qui sont profondément altérés, qui n'ont plus leur raison et qui n'ont plus aucune maîtrise de soi, d'eux-mêmes, qui sont complètement dépendants, dans la tête, parfois dépendants d'un appareil de respiration, etc. Comment tu...
Est-ce qu'ils sont dignes? Mais ils...
Donc,
est-ce qu'ils sont vivants? Oui. Ça, je pense que vous avez répondu à votre question. Ils ne sont pas en état de mort cérébrale. Tu parles de gens grabataires et déments, mettons, donc qui n'ont plus l'usage de leur raison, donc sans maîtrise.
C'était le problème là par rapport au cas dont on avait parlé, mais c'était quand même en état de mort cérébrale.
Bon, c'est un peu autre chose, ce cas-là. Oui.
20% du monde, les grabataires
végétatifs chroniques qui ne sont pas en état de mort cérébrale.
Oui.
Comment est-ce que la perspective de restauration relationnelle peut fonctionner avec des gens qui ne sont plus capables de relation?
Alors, ça dépend. S'il y a des soignants de long séjour, ils pourront peut-être percevoir ça. La relation ne sera plus possible au niveau raisonnable, c'est clair. Tu trouveras difficilement une aide-soignante pour te dire que quand elle fait la toilette de cette personne, elle n'est plus du tout en relation. Il se trouvera par ceux qui les approchent de très près, et par le corps en particulier, personne pour te dire, ils te diront toujours, tiens ce matin ceci, tiens ce matin cela. Je pense que la relation persistera, même à un niveau... physique, de contact, de toucher, de prise de soin, de prendre soin de l'autre. Alors, les soignants qui sont là, ça vous... Le médecin réagira peut-être différemment. Parce que la relation du médecin à ce genre de malade n'est pas dans la durée d'une toilette, n'est pas... Effectivement, il aura plus de mal à percevoir où peut se situer la relation. Si, si, il y a une dignité de départ, c'est ce à quoi tu adhères, et c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Bon, toi, tu introduis le terme de sacré, donc c'est la dimension plus religieuse, c'est fondé par le fait qu'on est créé par Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que même si toi, tu t'occupais de cette dame ou de ce monsieur sans cette conscience-là, ben l'autre demeurerait quand même digne. Mais c'est vrai, ça, le facteur temps. Décider que quelqu'un maintenant souffre tellement de cette situation que c'est pas possible de le laisser comme ça, c'est le priver de tout l'inconnu que peut apporter le temps. Et ça, c'est vrai. On a vu quand même, j'ai beaucoup moins d'expérience que certains ici, mais le peu que j'ai vécu me conforte là-dedans. Combien de gens on a vu d'abord s'étioler, mais même au sens psychologique du terme, c'est-à-dire apparemment souffrir de plus en plus, pleurer, être révolté, et si on s'arrête là et qu'on dit mais c'est insupportable, il faut les aider, il faut arrêter ça, et après recommencer complètement un autre, mais il a fallu du temps. Et comment décider qu'à un moment les gens peuvent être indignes de vivre, et alors que demain, on ne sait pas demain, on ne sait rien sur demain. Si, on sait que leur corps va aller plus mal, mais qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur ? À désirer, oui, je suis bien d'accord. On a un certain pouvoir